archéologie mystique par le père Philippe à Saint-Joseph le 20 mars 85.
Nous avions commencé la prière du Fils bien-aimé du Père. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas commenter. C'est très difficile de commenter une prière. On doit la vivre. C'est bien évident. Et d'autre part, au point de vue théologique, c'est sûrement un des très grands lieux pour pouvoir découvrir les intentions profondes de Jésus juste avant le mystère de la croix. C'est pour ça qu'elle nous est donnée. Quand Jésus souffre, il n'y a que telle ou telle parole. Tandis qu'en face du Père, il est comme un livre ouvert. Et il nous révèle ses intentions profondes de son cœur sacerdotal. Et c'est cela, je crois, que nous devons découvrir. L'amour à l'égard du Père, l'amour à l'égard des hommes. L'amour à l'égard du Père, l'amour à l'égard de Marie, de Jean et de chacun d'entre nous. Et la prière sacerdotale, sûrement, je ne sais pas comment, le comment reste toujours impénétrable pour nous lorsqu'il s'agit de la révélation. C'est pour ça que quand les exégètes veulent savoir le comment, je ne sais pas très bien si au fond on doit le chercher. Comment Jean a-t-il composé son œuvre, vous voyez ? Parce que le propre de la foi, c'est justement de télescoper le comment et de mettre uniquement en face de la finalité. Et les hommes ont toujours des curiosités et veulent savoir comment. Quand vous êtes en face de la prière sacerdotale du Christ, le comment Jésus a-t-il récité cette prière ? Comment Jean nous l'a-t-il donné ? Marie ne devait pas être présente. Quand Marie est là, on comprend très bien, puisque c'est celle qui garde tout dans son cœur. Alors, on a quelqu'un qui est sûrement d'une limpidité absolue et qui garde tout dans son cœur. Et Marie devait avoir une mémoire extrêmement sélectionnée. C'est-à-dire une mémoire toute pour les paroles de Jésus. Je crois que tout le reste, elle l'oubliait. Mais quand il s'agit des paroles de Jésus, je crois qu'elle les garde. Et que ça s'inscrit comme quelque chose d'éternel. Je crois qu'on peut le dire, ça, théologiquement. On peut dire que Marie est tellement ordonnée vers Jésus qu'elle ne retient que cela. Vous savez, on a la mémoire de ce qu'on aime. C'est curieux, mais c'est comme ça. Vous verrez, de plus en plus. Au début, on a la mémoire pour tout, parce qu'on est curieux, comme des gosses qui écoutent n'importe quoi. Mais au bout d'un certain temps, on n'a plus qu'une seule mémoire, la mémoire de ce qu'on aime. De ce qu'on aime, de celui qu'on aime, de celle qu'on aime. Et on garde tout dans son cœur, dans ce point de vue-là. C'est ça, une mémoire qui à la fois s'intensifie en pénétration et qui est de plus en plus ordonnée vers ce pourquoi on est fait. Alors, je ne crois pas que Marie était descendue au Cédron. Je ne crois pas que Marie était descendue au jardin de Gethsémani. Je ne crois pas. Je ne vois pas très bien comment, selon les habitudes, une femme puisse accompagner, même si elle est sainte femme. C'est possible. On verra ça un jour. Ne regardez pas trop les révélations privées là-dedans. Ça. Parce que les révélations privées ne nous donnent pas la certitude. Dites-vous bien ça. Ça peut nous pendant un certain temps nous séduire, mais au fond, ne nous laissons pas trop séduire et ayons cette espèce de pauvreté que réclame l'Esprit Saint. C'est le Père des pauvres. Alors, il nous donne l'Évangile. Il y a des quantités de trous dans l'Évangile. Quantité de choses qu'on voudrait bien savoir. On voudrait bien regarder Jésus descendant au Cédron, voir est-ce que les saintes femmes étaient là? Où est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles se sont rassemblées au moment de la prière de Jésus? Vous voyez, c'est quand même très beau ça. On voit très bien cette petite prière communautaire, charismatique, s'il en fut une. Elle est charismatique cette prière. Il n'y a que Jésus qui parle. Il n'y a que lui. Lui seul parle. Et les apôtres sont là, qui reçoivent et qui vivent cette prière. Dans un grand silence, de grandes émotions, sûrement, de grandes émotions. Puisque l'arrestation de Jésus se fait juste après. Si Marie était là, tout s'expliquerait. Après tout, Jean, il est jeune. Quand on a l'âge de Jean, on a une mémoire prodigieuse pour les choses qu'on aime. Surtout de ce temps-là, hein. Nous sommes des vieillards, nous, au point de vue de la mémoire, hein, parce que nous appartenons à une vieille civilisation. Alors notre mémoire a beaucoup diminué. C'est le procédé de la vieillesse, c'est que la mémoire diminue. Ça, c'est vrai, la mémoire diminue. C'est la première des choses qui diminue. C'est la mémoire. Alors, quand on appartient à une vieille civilisation, on a des mémoires un peu pourries. Tandis que quand on appartient à une jeune civilisation, l'Afrique, on a une mémoire bien plus forte. Il faut que les Africains le savent et qu'ils gardent cette mémoire pour les choses essentielles. Hein. Mais qu'ils gardent cette mémoire, justement, très très forte d'un jeune peuple. Tandis que nous, c'est un fait. Hein. C'est, il faut constater. Il ne faut pas être jaloux en disant qu'on jalouse la mémoire d'une culture qui n'est pas abîmée. Nous sommes, c'est pas une civilisation du livre. Et la civilisation du livre diminue la mémoire. Tandis que l'Afrique garde une civilisation qui n'est pas une civilisation du livre. Donc une civilisation de tradition. Et c'est pour ça qu'elle garde une mémoire beaucoup plus profonde. Parce que la tradition, ça se garde. Tandis que le livre, Dieu a permis ça. Ça permet pour faire autre chose. Mais vous voyez, l'information beaucoup plus grande a diminué la tradition. Et l'information, il faut du temps avant de faire une sélection. Si nous lisons tout ce qui paraît dans l'année, on deviendrait fou. Je me souviens, au Solchoir, c'était cette chose affolante. Parce qu'on devait lire tout ce qui paraissait au point de vue philosophique et théologique pour la revue. Et je suis persuadé que c'était un des facteurs qui empêchait de regarder les choses en profondeur. Alors, on recevait à sa porte, tous les mois, une pile énorme qui faisait recension de tout ça. Alors, des livres qui mettaient 10 ans à écrire, on devait, en quelques jours, quelques heures, porter un jugement dessus. Vous voyez quelle injustice, hein ? Terriblement injuste, les recensions. Parce que, normalement, un livre de philosophie ou de théologie, ça représente une longue méditation. Normalement. Et on doit... en quelques heures, quelquefois, en lisant uniquement la table des matières. Faire une recension. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Alors, faire une recension sur un livre, vous voyez, c'est d'une injustice folle. Alors, selon le bonhomme qui a écrit, on est d'accord ou pas d'accord ? On est plein de miséricorde ou au contraire, hein, la justice, on va voir, pour régler il y a eu le duel entre nous, alors on va régler la question. C'est ça pour nous faire comprendre que Jean reste encore, lui, avec sans doute une très grande mémoire, en fonction de son amour pour Jésus. C'est très possible que ce soit Jean. Puis il y a le Saint-Esprit qui grave dans le cœur ce que nous devons garder. Ce qui est sûr, hein, c'est que nous sommes là en face de quelque chose qui est extraordinairement précieux pour nous. Je dis bien extraordinairement précieux pour nous. La grande prière sacerdotale de Jésus. Alors, je reprends un tout petit peu avant de ce que nous étions arrêtés. C'est d'abord le mystère de la gloire. Prière glorieuse de Jésus. Père, elle est venue, l'heure, glorifie ton Fils. Alors, je ne reprends pas ce que nous avions vu. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Tout ça est d'une précision et d'une force étonnante. C'est une lecture divine du cœur de Jésus dans le sein du Père. C'est ça qu'il faut comprendre, puisqu'il est dans le sein du Père. Et il nous dit tous les désirs intenses de son cœur par rapport à son Père. Et le Père veut qu'il le dise pour nous. C'est le sermo sapientiae, ça, au sens le plus fort. Hein. Normalement, la prière est silencieuse et l'Esprit Saint donne un charisme pour exprimer ce qui normalement ne s'exprime pas. Et ça, c'est le sermo sapientiae. C'est le charisme le plus élevé. Et c'est le charisme le plus élevé qui est là pour nous communiquer ce que Jésus vit dans l'intimité et le silence à l'égard de son Père. Et maintenant, toi, Père glorieux, il faut comprendre l'insistance de Jésus au point de vue de la gloire. Hein. Et il faut essayer de comprendre la signification, le pourquoi. Le pourquoi, on doit toujours le chercher. Le comment, accepter d'être des aveugles et ne pas savoir le comment. Mettez tout l'accent de votre intelligence et de votre cœur pour saisir le pourquoi. Ce pourquoi de cette demande du Fils qui demande d'être glorifié pour glorifier le Père. Parce que le Fils est la gloire du Père et il le sait. C'est très très beau ça, vous savez, c'est très grand parce que c'est au fond ce que nous devons demander, la sainteté pour la gloire du Père. Devons demander d'être glorifiés pour la sainteté du Père. Parce que nous sommes des fils bien-aimés. Et que la seule manière de glorifier le Père, c'est d'atteindre la sainteté. Et c'est de tendre vers la sainteté. Et donc de mettre toute notre ardeur vers cette sainteté. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, in sinu patris. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors ça, c'est pas une nostalgie, vous comprenez? C'est pas une nostalgie, effacer le monde, et puis soyons là, entre nous, avant que le monde fût, parce que le monde, il nous a apporté beaucoup de tourments. C'est une drôle d'idée d'avoir inventé le monde, hein? Ça nous a apporté tellement de tourments, on était tellement bien seuls. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, c'est pas du tout cette nostalgie hein, du retour vers quelque chose qui est antérieur, non. C'est de porter le monde dans le sein du Père et de faire que le monde soit assumé pleinement par le Fils bien-aimé. Et que tout ce qui est la plus grande gloire avant que le monde fût, soit présent au milieu du monde. C'est ça, la prière de Jésus. voyez, il y a forcément, ça ne peut pas être autrement, hein, il y a forcément, à partir de la création, je dirais, il y a quelque chose qui a diminué, ça ne peut pas être autrement. Ce qu'on disait ce matin, le non-être est présent dès qu'il y a la création. Et il est porté dans la créature. La grâce, elle, n'implique pas le non-être. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toute la différence entre la créature et la communication de la grâce. La communication de laisser participer, de l'être participer, implique nécessairement une rupture entre la créature et Dieu. Il y a un infini, il y a un abîme infini entre les deux. Tandis qu'au contraire, la communication de la grâce se fait sans cet abîme. C'est pour ça qu'on dit bien une communication. C'est une koinonia, une communication, quelque chose qui est commun, qui est un point aérien, magnifique, étonnant, qui est une communication sans l'abîme qui arrête. Et ça, c'est le propre du mystère de la grâce. Et c'est pour ça que Jésus peut demander que tout ce qu'il vit éternellement comme verbe soit communiqué à son cœur de fils bien-aimé. C'est extraordinaire ça, parce que ça nous aide à pénétrer dans le mystère même de la grâce. Dans l'ordre de la grâce, une communication d'amour et une communication de surabondance d'amour, d'une certaine manière, il n'y a pas de limite. La limite est du côté entitatif, mais la limite n'est pas du côté de la vie. Tout ce que Dieu vit, il le communique à son Fils bien-aimé, au cœur de Jésus. Tout ce que Dieu est ne peut pas être communiqué. Mais c'est ces choses-là qu'il faut essayer de saisir pour mieux comprendre l'absolu de la grâce. Si on refait cette distinction, c'est pour mieux comprendre l'absolu de la grâce. Et surtout pas confondre les deux. Parce que si vous confondez les deux, vous tombez dans le panthéisme. Le panthéisme, c'est la confusion de l'ordre surnaturel dans le naturel. C'est ça le panthéisme. Alors on veut dire dans l'ordre naturel ce qui est propre à la grâce. Mais en distinguant les deux, on permet d'aller beaucoup plus loin que les panthéistes dans l'ordre surnaturel. On va bien plus loin, puisque c'est l'unité du mystère de la très sainte Trinité qui est vécue dans le cœur de Jésus. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Alors, c'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Quelle est la gloire du Verbe? Et ça, posez-vous la question en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Quelle est la gloire du Verbe? Je crois que la gloire du Verbe, c'est être un avec le Père dans cette spiration de l'Esprit-Saint. Je crois que c'est la plus grande gloire du Verbe. La plus grande gloire du Fils, c'est d'être un avec le Père et de ne faire que la même chose que lui. Il ne peut pas y avoir une gloire plus grande. Vous voyez, déjà Jésus disait ça au chapitre 5. Hein. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Ça, c'est le désir le plus profond du Fils. C'est de n'avoir pas d'autre œuvre que l'œuvre du Père. C'est de ne pas avoir d'autre amour que l'amour du Père. Et donc, ce qu'il y a de plus profond dans le mystère du Verbe, dans le mystère du Fils, c'est de spirer l'amour avec le Père. Et c'est pour ça que si on supprime, voyez, le filioque, on ne comprend plus la gloire du Fils. Alors, ramener ça à des questions politiques, non. Ce n'est pas des questions politiques. C'est question pour pénétrer dans le mystère même de la gloire du Fils qui nous est montré ici. Et je crois bien qu'on ne peut pas dire autre chose que la gloire du Fils, c'est vraiment de ne faire qu'un avec le Père comme source de l'Esprit-Saint. Quand on aime quelqu'un, on n'a qu'un seul désir, c'est de faire la même œuvre que lui. Et quand cette œuvre n'est pas une œuvre, mais que c'est plus qu'une œuvre, c'est la communication de l'amour. C'est un mystère de fécondité, qui est plus qu'une œuvre. C'est vraiment de communiquer tout ce qu'on a, substantiellement. Je crois que c'est cela la gloire du Verbe. Et si c'est bien cela la gloire du Verbe, Jésus, dans son cœur d'homme, demande au Père la même gloire. Si Jésus ne l'avait pas dit, on ne pourrait pas l'inventer. Et puisque Jésus le dit, c'est pour que nous comprenions comment tout le mystère de la gloire du Verbe est communiqué au cœur du Fils bien-aimé. Et c'est en ce sens-là, je crois, qu'il est Fils bien-aimé. Parce que le Fils bien-aimé, c'est celui qui reçoit tout ce qu'il peut recevoir du Père. Tout ce que le Père peut donner au Fils, il le donne. Autrement, il ne serait pas le Fils bien-aimé. Celui qui est le bien-aimé, c'est celui qui reçoit la plénitude de ce qu'il peut recevoir. Alors, il est Fils bien-aimé, puisque le Père l'a révélé au moment du baptême. Alors on comprend ce moment où le Fils peut dire ça. Et alors c'est beau de voir le Père et le Fils, le double mouvement, le mouvement du Père qu'il regarde comme le Fils bien-aimé, donc lui promet tout, lui donne tout, et le Fils qui le demande. Et qui le demande pour son mystère sacerdotal. Alors, si ceci est vrai, vous comprenez que ça vous donne une dimension du sacerdoce du Christ qui est étonnante. Je crois qu'on ne peut le dire que dans une théologie mystique. Dans une théologie mystique, on peut dire alors que le sacerdoce du Christ, c'est d'être associé à l'aspiration de l'Esprit Saint. C'est d'être associé. Associé, c'est-à-dire tout recevoir gratuitement du Père et du Verbe à cette spiration d'amour. Vous voyez, ce qui fait comprendre que le sacerdoce du Christ, dans ce qu'il a de plus ultime, dans l'ordre de la finalité, c'est vraiment un sacerdoce contemplatif de surabondance d'amour, pour être associé au mystère de l'aspiration de l'Esprit-Saint. Le sacerdoce du Christ, en tant qu'il est participé dans le sacerdoce ministériel, il se définit par l'Eucharistie, et le sacerdoce royal du Christ, qui est donné aux fidèles, qui est donné à Marie, qui est donné à chacun d'entre nous, dans la mesure où nous vivons, du mystère de la charité, c'est d'être associé à l'aspiration éternelle d'amour. Alors là, vous voyez bien toute la différence entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal. Le sacerdoce mystique. Le sacerdoce ministériel, il est lié à l'Eucharistie. L'autre, il nous fait entrer comme instrument d'amour. Il nous fait entrer dans le mystère même de la très sainte Trinité. Or, l'Eucharistie n'a pas d'autre but que de nous faire vivre du mystère de la très sainte Trinité, mais comme un signe et un instrument. Tandis que le sacerdoce royal vit le mystère lui-même. Alors ce serait très beau, vous voyez, d'essayer d'étudier le lien entre l'Eucharistie et l'aspiration de l'Esprit-Saint. Parce qu'il y a un lien entre l'Eucharistie comme sacrement et l'aspiration de l'Esprit-Saint. Et ça nous permet de comprendre mieux, voyez, comment l'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'aspiration de l'Esprit-Saint. Et que l'Eucharistie doit nous permettre d'entrer dans ce mystère. Notre action de grâce doit être de spirer l'Esprit Saint. C'est la plus grande action de grâce. Et ça, c'est l'action de grâce qui nous est donnée Que nous en ayons conscience ou que nous n'en ayons pas conscience, autant que possible, vaut mieux. N'est-ce pas ? Mais c'est ce mystère que nous vivons déjà dès cette terre, que nous vivons dans la foi et que nous vivons éternellement. Alors ça fait comprendre toute la grandeur de l'Eucharistie et en même temps comment l'Eucharistie qui détermine le sacerdoce ministériel, puisque le sacerdoce ministériel a sa raison propre, comme dit notre pape, dans le mystère de l'Eucharistie, ça nous fait comprendre comment le mystère de l'Eucharistie et le sacerdoce ministériel sont tout entiers tournés vers le sacerdoce royal des fidèles, qui permet à la petite créature, enfant de Dieu, membre du cœur de Jésus et de la tête, de vivre ce que Jésus vit actuellement. Être associé à cette inspiration éternelle de l'Esprit Saint. Donc là, nous touchons un sommet. Un sommet qui vous voyez, le mystère de l'Eucharistie, le mystère du sacerdoce royal de Jésus. Pour bien comprendre que le sacerdoce ministériel n'est pas adéquat au mystère du sacerdoce de Jésus. Il est un aspect particulier de ce mystère, l'aspect sacramentel, signe et instrument efficace, c'est très grand, mais c'est ordonné à quelque chose de plus grand qu'est le sacerdoce ministériel, qu'est le sacerdoce mystique des fidèles, et qui nous met directement en unité de vie avec le Fils bien-aimé, qui dit « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus, dans ce dernier regard, veut tout remettre au Père, tout le fruit de sa vie apostolique, toute la mission qu'il a reçue, il veut la remettre au Père. C'est beau parce que ça nous apprend, nous aussi, voyez, à faire de même. Toute notre vie apostolique, on la vit dans un désir au noviciat. C'est vrai. Vous vous sanctifiez pour ceux que vous rencontrerez un jour. Ne vous imaginez pas de rencontrer tel ou tel pour les convertir. Surtout, ne vous imaginez pas ça, ce serait l'imagination. Mais vous les portez, tous ceux que Dieu vous permettra de rencontrer. Et une fois que vous les aurez rencontrés, vous les remettez au Père, sans chercher à voir le fruit. Et en vivant uniquement de cette grande intention d'amour, on remet tout. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Voilà tout ce qu'on a à faire. La vie apostolique, c'est manifester le nom du Père aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est pas nous qui les choisissons. On ne choisit pas son apostolat. Quand vous choisissez votre apostolat, vous risquez de tomber complètement à côté. On ne choisit pas. C'est l'Esprit Saint qui conduit. Et il y a une remise totale à Dieu et au Père. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est le Père qui nous donne. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est merveilleux pour définir ce que c'est que la vie apostolique. Hein. Mais voyez, comme la vie apostolique à ce moment-là implique la contemplation, implique qu'on n'ait qu'un seul désir, c'est de vivre de la gloire du Père. Alors, vous ne pouvez pas vivre de la gloire du Père sans la contemplation, dans ce qu'elle a de plus exigeant, vivre ce mystère d'être source de l'Esprit. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Alors, c'est la joie du cœur de Jésus, ça. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Voyez la pauvreté de l'apôtre. On ne donne pas ce qu'on a découvert. On communique ce que le Père nous a donné. Et on doit toujours faire que ceux que nous rencontrons comprennent que nous n'avons rien à nous et que tout vient du Père. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Car les paroles que tu m'as données, je le leur ai données. Donc, on communique le mystère de la vérité, le mystère de la parole de Dieu, non pas du tout comme quelque chose qui vient de nous, nos petites trouvailles, en philosophie très bien, mais pas en prédication. C'est pour ça que l'enseignement de la philosophie, on n'est qu'aux secondes. Dans la vie apostolique, on est instrument de Dieu. Et c'est bien montré, ça. Vous avez le droit de dire en philosophie que vous avez fait des découvertes. Oui. Vous avez le droit, peut-être lucide, de dire les anges, ça. Dans la vie apostolique, tout ce que vous dites, ce n'est pas de vous. C'est l'Esprit Saint qui le dit à travers vous. Et vous êtes là, sachant très bien, on est un balai dans les mains de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint nous laisse un instant tout seul, il n'y a que de la poussière qui tombe. Il n'y a que ça. Tandis que si l'Esprit Saint se sert de nous, alors en se servant de nous, les poussières ne tombent pas et la grâce passe. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a un mystère de communication qui se fait entre ceux qui reçoivent la parole et celui qui la communique. Bossuet disait ça, lui, de façon très très forte aussi, en disant qu'il y avait toujours un mystère d'une communion entre l'auditoire, ceux qui reçoivent, et le prédicateur, l'apôtre. Et c'est beau, parce que Bossuet, il devait y avoir quand même une petite modalité artistique. Alors, cette petite modalité artistique peut être un écran. Eh bien, il reconnaissait que non, cette modalité artistique était entièrement au service de la communication qu'il devait y avoir entre celui qui est l'instrument de Dieu et ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi, car les paroles que tu m'as données, je le leur ai données. Et eux les ont reçues, et ils ont connu vraiment que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, comprenez bien, ce qui est vrai du Christ est vrai de tous les amis du Christ. Mais c'est vrai de tous les amis du Christ qui doivent s'effacer devant Jésus. Et c'est ce mystère de la vie apostolique qui continue par les pauvres membres du Christ, par les amis de Jésus. C'est pour eux que moi je prie. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc Jésus les porte en dernier lieu par sa prière. C'est pour eux que moi je prie. Et nous devons faire la même chose. Hein. Notre vie apostolique nous reconduit vers la contemplation. Si c'est une véritable vie apostolique, elle nous reconduit vers la contemplation. Et c'est pour eux que moi je prie. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alors comprenez bien, ça ne veut pas dire du tout que Jésus ne prie pas pour les hommes, mais il ne prie pas pour le monde. Le monde dans le sens où saint Jean en parle dans sa première épître. Le monde mu par le démon. On ne peut pas prier pour le démon, au sens fort. On prie pour les hommes, pour qu'ils puissent se convertir, c'est sûr. Mais on ne peut pas prier pour le démon. Alors le monde, dans la mesure où il n'est qu'un avec le démon, en tant que c'est la mouvance du démon, on ne prie pas pour le monde. On prie pour les hommes, et pour chaque homme en particulier. Il n'y a pas de prière, voyez, collective, non. La prière regarde toujours des individus. Ça ne peut pas être autrement. Elle est toujours individuelle, elle est toujours personnelle. C'est un réseau de relations personnelles. Le jour où ça devient universel, ça perd son caractère d'amour. Ça, c'est sûr. Souvenez bien ce que je vous ai déjà dit à propos de ce bon évêque missionnaire, hein, après avoir ordonné ses prêtres en disant: je vous dis, mes amis dans le sacerdoce, que l'Église, c'est un mystère de relation personnelle. Là où la relation personnelle n'existe plus, l'Église n'existe plus. C'est une superstructure. C'est juste qui tombe. C'est plus l'Église. L'Église, ce sont des relations de charité fraternelle. Et la communauté n'est divine que dans la mesure où il y a ces relations fraternelles. D'un tissu de relations fraternelles. Ce n'est pas l'œuvre qu'on fait, ce n'est pas le résultat qui fait qu'une communauté est vivante. Elle est vivante dans la mesure où les relations entre chacun des membres, ce sont des relations de charité fraternelle. C'est ça l'Église. Et si on veut être une petite Église dans la grande Église, si on veut être une Église particulièrement vivante dans l'Église, il faut que ce soit un tissu de relations fraternelles. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et en eux, je suis glorifié. Alors, la glorification atteint la charité fraternelle. La glorification, elle est personnelle et elle assume la charité fraternelle. Ça va très loin, ça, vous voyez, parce que ça unit la charité fraternelle à l'aspiration éternelle d'amour. Et ça, je crois que c'est vrai. Que le mystère de la charité fraternelle doit être vécu de cette manière particulière que nous sommes appelés les uns et les autres à réaliser, à vivre du même mystère, cette spiration de l'Esprit-Saint. Et c'est à ce moment-là où la charité fraternelle a toute sa force, vous voyez. Ne jugeons pas selon les apparences. Si vous jugez de la charité fraternelle en fonction de ce que vous voyez dans la vie commune, ça ne va pas. La charité fraternelle est un niveau divin invisible. C'est un mystère. Évidemment, on doit autant que possible faire que le levain transforme la pâte et que ce soit visible. Mais c'est un effet qui attend du temps. C'est un effet très long. La charité fraternelle, qui est la pâte humaine, hein, je veux dire que ça met du temps, que la charité fraternelle, qui est le levain, arrive à transformer la pâte de la vie commune. Et la vie commune, elle est faite, vous le savez bien, d'une quantité de choses. Depuis les repas en commun, en passant par les chapitres, en se renouvelant dans la prière liturgique, en vivant intensément l'oraison en commun, en vivant le travail en commun. C'est une vie commune que nous faisons maintenant, même s'il n'y en a qu'un qui parle. Il parle pour tous, et donc c'est la manière dont chacun reçoit qui fait la vie commune. Et le travail, tout ça c'est la vie commune. Et c'est la vie commune même quand on travaille seul en cellule. Puisqu'on travaille pour se consacrer dans la vérité. Et si dans une communauté il y en a quelques-uns qui sont un peu plus consacrés dans la vérité, toute la communauté à ce privilège énorme par quelques membres consacrés dans la vérité. Puisque c'est le propre d'une communauté. C'est que ce qu'un membre fait, tous le font. Et s'il y a quelques membres qui le font, alors à ce moment-là, il y a cette espèce de quelque chose de très grand qui est ce dépassement. Alors, il faut bien saisir ça, parce que c'est tellement important de le saisir dans la lumière même de Jésus. C'est ce jugement-là que nous devons avoir. Jésus nous montre le jugement que nous devons avoir sur ce que c'est que la vie commune. Nous devons le faire dans cette lumière. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. En eux, je me suis glorifié. Troisième moment. Et je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde. C'est Jésus qui compare ce qu'il est avec ceux qui sont ses disciples. Ce que le Père lui a donné. Et je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Donc, la très grande miséricorde de Jésus. Plus il est proche du Père, plus sa miséricorde est nécessaire pour nous. Je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom. Ils sont dans la lutte, ils sont dans des grandes luttes, ils ont besoin de cette prière, ils ont besoin d'être enveloppés de cette prière. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Vous voyez le fruit très très fort que désire Jésus. C'est le désir du cœur sacerdotal du Christ. Chaque fois qu'on brise l'unité, on blesse le cœur sacerdotal de Jésus. De l'unité de l'Église et de l'unité d'une communauté qui pour nous et notre Église. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, c'est la sainteté du Père qui est gardienne de l'unité et qui fait l'unité. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Donc, être gardé dans le nom du Père. Alors, le nom du Père, vous voyez, c'est toujours très mystérieux, le nom du Père. Est-ce que c'est son Fils ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est son Fils ? Puisqu'au fond, le Fils, d'une certaine manière, manifeste le Père. Et il est le nom du Père. Et d'une autre façon, le Fils n'est pas le nom du Père, puisqu'il est une autre personne. Vous voyez la difficulté qu'il y a au point de vue théologique à bien comprendre cette affirmation. C'était déjà présent lorsqu'il l'avait dit. Donc je ne suis plus dans le monde, et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom, que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Donc, l'unité vers laquelle nous tendons, l'unité qui nous fait vivre et qui nous met dans la joie et la paix, cette unité, c'est une unité semblable, analogiquement, à celle qui existe entre le Fils bien-aimé et le Père. C'est une unité glorieuse par le fait même. Et donc, il faut que cette unité glorieuse dans une vie commune qui veut témoigner. Alors, qui dit unité glorieuse, dit unité conquérante. Unité qui est le fruit d'une victoire. Donc, conquérante à l'égard de tout ce qui pourrait venir la diminuer, tout ce qui pourrait venir, justement, pendant que le démon, l'ennemi, sème la zizanie, la nuit, il sème la zizanie, il ne faut pas l'oublier, hein. Il passe et il repasse, en voulant mettre la zizanie, en voulant mettre des divisions. Et dès qu'on s'aperçoit de ça, on est tout de suite en alerte, en disant, ce n'est pas de Dieu. Toujours, la division n'est pas de Dieu. Dieu veut l'unité, et veut une unité qui soit une unité glorieuse, donc une unité substantielle d'amour, analogue à celle qui existe entre le Père et le Fils. Or, le Père et le Fils sont un, inspirant l'Esprit-Saint. C'est en tant qu'ils sont un, inspirant l'Esprit-Saint. Alors, vous voyez, l'unité qu'il doit y avoir entre les membres du Christ dans une communauté chrétienne. Nous sommes un, inspirant l'Esprit-Saint. C'est-à-dire en reconnaissant chacun d'entre nous que nous ne sommes que des instruments de Dieu, et de purs instruments de Dieu. Dès que vous voulez affirmer votre petite individualité personnelle, et ça va vite ça, hein, immédiatement vous brisez l'unité, parce que vous ne spirez pas à l'amour en étant une personne humaine, individuelle. Vous ne pouvez le faire qu'en étant un instrument du Saint-Esprit. Je crois que c'est très fort, ça. Et c'est très important, parce que ça fait comprendre, vous voyez, qu'on demande toujours à l'Esprit-Saint d'être des pauvres. La pauvreté radicale, c'est d'être un instrument. C'est Isaac qui bénit Jacob en croyant bénir Ésaü. Vous voyez, si Isaac n'avait pas été instrument de Dieu et n'avait pas vécu ça comme instrument de Dieu, au moment où il serait aperçu de ça, il aurait manifesté sa colère en disant « c'est pas ça que j'ai voulu ». Non, il est instrument de Dieu et l'unité demeure. Très très important ça. Vous voyez, nous ne faisons pas notre œuvre. Nous faisons l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Marie, chacun à sa place. Et donc, on ne doit pas avoir un barème, une idéologie qui mesure une communauté en disant « là, la communauté ne va pas ». Ça prouve que vous avez votre barème. C'est plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas de barème. Il n'a pas de mesure, si ce n'est lui. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Alors, si c'est vrai de l'amour humain, a fortiori de l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint réalise une unité dans l'Église Et dans la communauté, dans notre petite église, il réalise l'unité en réclamant de chacun d'entre nous d'être comme le Père et comme Jésus, source d'amour, les uns pour les autres, dans l'Esprit Saint. Vous n'êtes un que dans la mesure où vous êtes source d'amour, et que dans la mesure où vous êtes donc totalement donné. Alors on ne peut plus juger, vous voyez, on ne peut plus loucher en disant « ce n'est pas convenable à ce que j'avais pensé, ce n'est pas convenable à mon opinion ». Non, on est donné. Et je crois que nous pouvons le dire si nous essayons de comprendre ces paroles qui, encore une fois, ont une gravité et une profondeur qui ne peut se comprendre qu'à travers le cœur de Jésus. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Donc, garde-les dans ton nom, le nom du Père, qui est le Fils bien-aimé. Garde-les dans ton nom. Que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Or, l'unité qui existe entre le Père et le Fils, c'est dans cette spiration d'amour. Et donc, l'unité qui doit exister entre tous ceux que Jésus prend dans son amour pour les offrir au Père, ça doit être aussi dans cette spiration d'amour. Lorsque j'étais avec eux, moi, je l'ai gardé dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé. Et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. C'est admirable, ça. Hein ? Jésus accepte cette volonté du Père. Qui permet le péché de Judas. Alors ça, c'est magnifique. Voyez, si la communauté chrétienne était une communauté idéale, il n'y aurait pas eu Judas. Mais c'est le réalisme divin, cela, qui fait que c'est une communauté d'amour. Et donc une communauté qui laisse la liberté totale. Et on ne pourrait pas dire « Judas n'a pas été fidèle, donc les douze faisaient quelque chose qui n'était pas exactement ce qu'il fallait. Hein ? » On pourrait juger comme ça. Et dire ça à Jésus. Parce que Judas est sorti, ah, y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Judas est sorti, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, corrigeons. Parce qu'il faut que Judas soit intégré. Ah, attention. Là, vous avez votre barème. Et vous jugez l'action de l'Esprit Saint. Si vous ne jugez pas l'action de l'Esprit Saint, vous devez comprendre que l'unité d'une communauté, ce n'est pas les membres qui la font, c'est l'Esprit Saint qui la fait. Puisqu'elle provient de l'aspiration de l'amour. Et ça exige évidemment de chacun de ne vouloir faire qu'une seule chose, la volonté du Père. Et de vouloir être un avec le Père pour spirer l'amour. C'est pour ça que c'est si beau cela, vous voyez, parce que ça nous fait comprendre que cette communauté n'est pas une communauté idéale. C'est bien plus que ça. Une communauté idéale, elle implique une mesure. Elle implique une cause exemplaire. Donc elle implique un barème. Et plus la communauté est parfaite, plus le barème doit être élevé, et moins il doit y avoir de déchets. Si j'ose dire. Hein. Ici, nous sommes en présence d'une communauté d'amour. donc libre. Jésus laisse à chacun sa liberté. Et ça fait partie du mystère même d'une communauté chrétienne. Parce qu'on ne peut pas rêver une communauté plus parfaite que celle que Jésus a réalisée. C'est un fondateur unique. Et ce fondateur n'a pas de limites. Parce qu'il a un amour infini. Et donc il n'y a pas de limite. Et malgré ça, il y a le Fils de perdition. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, on a toujours envie de faire un peu comme Machiavel. Si j'avais été à la place, il n'y aurait même pas le Fils de perdition. Parce qu'on aurait fait une communauté idéale sans Fils de perdition. Il y a une brèche dans cette communauté. Et la brèche, elle est manifestée de cette manière-là. Ce qui est très douloureux pour le cœur du Christ. C'est infiniment douloureux. Ce n'est pas une limite. C'est une volonté mystérieuse du Père. La permission du Père. On doit être très attentif à ça. Et c'est très important, parce qu'autrement, vous voyez, nous introduisons notre jugement propre. Et en introduisant notre jugement propre, nous faussons tout, forcément. Il ne faut pas introduire son jugement propre, il faut comprendre que toute communauté chrétienne est conduite par l'Esprit-Saint. Alors ne faites pas injure au Saint-Esprit. C'est comme si vous disiez, le Saint-Esprit n'a pas été assez attentif. Autrement, Judas n'aurait pas été Judas. Le Fils de perdition n'aurait pas existé. Attention. Dieu respecte la liberté. Et ce respect de la liberté de Dieu est insondable. Nous ne pouvons pas le mesurer. Et nous n'avons pas le mesurer. Et nous devons accepter que la communauté la plus parfaite qui soit, quand Jésus la regarde dans la lumière du Père, et ça, c'est magnifique. Il la regarde dans la lumière du Père pour nous. Et nous avons toujours à regarder l'unité d'une communauté dans la lumière du Père. Et non pas dans notre prisme à nous. Et non pas dans notre manière de la comprendre. Et non pas dans notre manière de la saisir. C'est-à-dire en formant une idée. Vous voyez l'idéalisme qui repasse partout. Lorsque j'étais avec eux, moi, je l'ai gardé dans ton nom que tu m'as donné. Et j'ai veillé. Et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le Fils de perdition, pour que l'Écriture s'accomplisse. Et l'Écriture s'accomplit pour que nous comprenions ce mystère de liberté à l'intérieur même de l'amour. Mais maintenant, je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient la joie, la mienne, dans sa plénitude en eux-mêmes. Vous voyez, il y a l'unité et la joie, comme c'est important. L'unité et la joie. Pas de joie s'il n'y a pas d'unité. Chaque manque de joie est le signe que l'unité n'est pas ce qu'elle devrait être. S'il y a une unité substantielle, profonde, enracinée dans la volonté du Père, alors il y a une joie merveilleuse. Et Jésus veut cette joie. Mais l'unité, ça reste caché. La joie, ça se manifeste. On donne un témoignage de joie. Et en donnant un témoignage de joie, on donne un témoignage d'unité. Parce qu'on dit « Ecce quam bonum et quam jucundum » comme il est bon de vivre avec des frères, pas seulement le jour de la prise d'habit, mais tout au long, comme il est bon de vivre avec des frères, comme il est merveilleux de vivre avec des frères, parce qu'il y a une unité profonde qui vient de l'Esprit-Saint. Et qui vient de l'Esprit-Saint, vous voyez bien dans quel sens, hein, quand on dit que l'unité vient de l'Esprit-Saint, c'est d'être source de l'Esprit-Saint. C'est assez étonnant, ça. Parce que quand on dit ça vient de l'Esprit-Saint, c'est comme le fruit. C'est plus que ça. Ça va plus loin. puisque c'est l'unité semblable à celle qui existe entre le Père et le Fils. Or, cette unité, c'est justement qu'ils aient la même gloire. Et la gloire consiste dans cette spiration d'amour, faire une œuvre commune. Et donc, on peut dire ça. Ça va évidemment très loin. Et c'est merveilleux. Parce qu'alors, on ne regarde plus, voyez, les résultats. On regarde les intentions de l'Esprit-Saint. Et c'est peut-être ça le grand secret. On n'entre pas dans une communauté pour le résultat actuel de la communauté, on entre dans une communauté pour accomplir la volonté du Père et la volonté de l'Esprit-Saint. Parce qu'on est tous des jeunes gens riches, et donc on est tous des jeunes riches. On entre dans une communauté que pour faire la volonté du Père. Et non pas parce que cette communauté m'apparaît comme idéale. Mais on n'épouse jamais Miss Idéale, parce que ça n'existe pas. Alors,